Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
Bienvenue dans le Social Club. Je reçois aujourd'hui Arthur H qui sort un double album, Amour Chien Fou, et part en tournée. Il sera notamment au Trianon à Paris le 4 avril. Je reçois Denis Robert qui couvrait l'affaire Grégory. À l'époque, il a réuni tous ses articles dans un livre intitulé « J'ai tué le fils du chef », le roman de la Vologne, 1984-2018. Et je reçois le docteur Vladimir Mitz. Il fait de la chirurgie esthétique depuis plus de 40 ans. Il a même contribué à la démocratiser. Et c'est lui qui aujourd'hui ouvre le débat dans un livre, La chirurgie esthétique, pour ou contre. Vladimir Mitz, vous êtes le premier chirurgien esthétique qui vient dans cette émission. Alors je me réjouis de vous poser la question. Qu'est-ce qu'on fait de nouveau en chirurgie esthétique depuis le début des années 2000?
Pour vos auditeurs, je voulais leur faire le cadeau incroyable des nouvelles techniques qui vraiment ont bouleversé notre métier. D'abord, une découverte intéressante, c'est que votre propre graisse peut servir. On fait des lipofillings. La graisse est prélevée sur le corps de la patiente ou du patient, transformée. Et elle peut être réinjectée, greffée en quelque sorte. Et c'est pour nous un ciment formidable pour refaire les formes qui manquent, qu'il s'agisse d'un traumatisme.
On n'a pas assez de seins, on peut se faire prendre
exactement
de la graisse dans les cuisses, là où on en a trop.
Au niveau de la culotte de cheval,
et on vous les met dans les seins.
Tout à fait, et ça a été d'abord validé en matière de reconstruction du sein après cancer. Et puis ensuite, on l'a appliqué en chirurgie esthétique. Et c'est un progrès très important parce que c'est écologique, c'est biologique, c'est à vous. C'est assez égoïste, mais c'est... Alors, malheureusement, il faut parfois recommencer deux ou trois fois, parce que toute la graisse ne prend pas. On ne sait pas encore comment cultiver si bien les cellules pour que toutes prennent du premier coup. Mais on va y arriver. Et puis, un deuxième progrès, c'est dans la bataille contre le vieillissement. Plutôt, rester un peu jeune. Et les patients, maintenant, veulent qu'elles puissent rester jeunes avec le minimum d'effraction. Quelque chose qui soit très simple, très facile. Donc ça explique le succès foudroyant de la médecine esthétique. Mais nous aussi, en chirurgie, avec notre scalpel, nous avons la possibilité de faire des opérations de type lifting très légères, comme le microlift, par exemple, que j'ai mis au point. Et puis, enfin, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est les greffes de visage chez les gens qui sont totalement défigurés. Donc là, c'est la chirurgie réparatrice, mais elle doit être esthétique aussi. Eh bien, on peut prélever le visage, le greffer sur quelqu'un d'autre avec un traitement qui est très spécifique contre le rejet. On a vu récemment dans l'actualité que malheureusement, ça ne prend pas à tous les coups et qu'on a pu recommencer. Les Français ont été très à la pointe de la chirurgie esthétique. Il le reste et on peut en être fier.
Arthur H, pour vous, quoi de nouveau ?
Depuis les années 2000.
Ouais.
Et ben alors moi j'ai écrit un disque sur l'amour. Je dirais que les rapports amoureux continuent d'évoluer, peut-être dans le bon sens, dans le sens d'un dialogue, quelque chose qui reste toujours à inventer, qui peut toujours basculer autant vers le drame, la tristesse que la joie. Mais je pense qu'on a quand même un rapport homme-femme plus intéressant, plus vibrant, plus complexe qu'avant, quoi. Moins défini, en fait, que tout est possible.
Et c'est pas seulement depuis l'affaire Weinstein.
Oui, enfin, Weinstein étant quelqu'un issu d'un vieux monde, de l'ancien monde.
Et pour vous, Denis Robert?
C'est l'avènement des robots qui aident aux enquêtes criminelles. Dans l'affaire Grégory, là, dans le livre que je présente ce soir, là, on voit que le déblocage a été créé parce que une intelligence artificielle qui est née aux États-Unis, qui a été rachetée par la gendarmerie française, qui s'appelle Anacrim, c'est-à-dire une sorte de logiciel, de réceptacle dans lequel les hommes mettent toutes les informations, mais des centaines de milliers d'informations, malaxent tout ça et ressort des emplois du temps, ressort des éléments qui font qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis 34 ans que l'enquête a démarré, on a pu imaginer un scénario avec 4 voire 6 personnages pour expliquer le crime de l'enfant.
Et ça, c'est un robot qui a fait que deux nouvelles personnes ont été mises en examen.
Exactement. Et donc, en travaillant sur le sujet, j'ai découvert que ce robot, en fait, était une émanation ou une prolongation d'un robot américain qui s'appelle Coplink et qui a permis aux États-Unis, il y a une dizaine d'années à Chicago, de retrouver un tueur par les traces de ces voitures. Et c'est aussi une intelligence artificielle qui a trouvé ça. On est un peu dans Minority Report, le film où on prévoyait les crimes, sauf que c'est la réalité d'aujourd'hui, quoi.
Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
Chirurgie esthétique, pour ou contre, c'est le titre de votre livre, Vladimir Mitz, qui vient de paraître chez Flammarion. Vous êtes chirurgien esthétique, vous avez un cabinet à Paris, vous avez exercé dans les hôpitaux de l'assistance publique, vous avez même contribué à démocratiser la chirurgie esthétique, comme vous le racontez dans votre livre, en donnant accès plus facilement et pour moins cher au lifting, à des opérations des seins ou du nez. La chirurgie esthétique a mauvaise presse, d'après vous ? Ce serait pour ça que vous avez écrit ce livre ?
Oui, j'ai voulu dans ce livre réhabiliter un peu mon métier, qui est un métier magnifique, c'est un métier pour l'enthousiasme de vivre. Et c'est un métier qui est mal considéré parce que tout de suite on pense aux ratés, aux stars qui n'ont pas eu le résultat qu'on pouvait penser, alors que des milliers et des milliers de personnes se font opérer et leur vie est donc changée positivement.
Mais quand c'est réussi, ça ne se voit pas, c'est quand ça fait des dégâts que ça se voit. C'est un peu logique qu'on ne pense à en parler que quand ça va mal.
Ce n'est pas tout à fait synonyme, Frédéric. Je pense qu'en France, on a une vocation à faire très naturel. Toutes nos opérations sont faites pour que le chirurgien esthétique reste invisible. On est dans le cœur de nos patients, mais il ne faut pas qu'on s'aperçoive qu'une opération a été faite. Et ce n'est pas parce qu'on voit qu'une opération a été faite qu'elle a été ratée, parce que par exemple aux États-Unis, pendant très longtemps, il fallait que l'on puisse voir qu'une opération a été faite, qu'il s'agisse d'un nez trop petit ou modifié, parce que cela voulait dire que la personne avait l'argent pour se faire opérer. Et donc elle voulait le démontrer. Et on est dans un autre état d'esprit dans notre pays, où il faut rester extrêmement subtil, c'est une caractéristique de notre métier. Techniquement, c'est beaucoup plus difficile. Mais aussi, je voulais bien dire que les ratés, oui, ils existent. On admet que pour les compagnies d'assurance qu'il n'y a pas tant de ratés que ça en chirurgie esthétique. On n'est pas le métier qui est le plus pénalisé par les assurances. Mais par contre, chaque échec pour nous est très dur à vivre. Et aussi, nous devons être des chirurgiens réparateurs. C'est-à-dire, s'il y a échec, on doit être à même de le réparer. L'image que je donne, c'est que si vous montez dans un avion, on vous dit, vous allez aller à New York. Ok, le pilote vous paraît bon. Et puis s'il faut s'arrêter à la Martinique, eh ben vous n'allez pas être content. Eh ben nous, c'est pareil. C'est-à-dire, si on doit avoir une opération qui n'est pas allée jusqu'à son terme de satisfaction, notre job, c'est de le réparer pour ramener la patiente à la grande satisfaction.
Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle une opération réussie ? Il y a une illusion sur laquelle la chirurgie peut nous rendre plus jeunes ou plus beaux. Notamment, cette illusion existe notamment chez les vedettes de cinéma que l'on quitte un jour avec des rides et que l'on retrouve 6 mois plus tard avec un visage d'extraterrestre comme John Travolta ou pire encore Berlusconi. Est-ce qu'il ne faut pas dissuader les gens de faire la même chose qu'eux ?
Tout à fait. D'ailleurs, c'est notre job aussi. La deuxième partie de notre job, c'est de savoir dire non. C'est-à-dire d'expliquer à des patients que leur demande n'est pas tout à fait réalisable et que si on fait une reconnaissance du terrain, si j'ose dire psychologique, ce qui est fondamental pour nous, on va s'apercevoir qu'il y a des patients qui sont instables ou bien qui vont vouloir des réparations ou des changements qui sont inacceptables. Donc notre boulot, c'est vraiment de savoir dire non, de n'accepter que les patients qui peuvent supporter un changement subtil positif, mais qui restera quand même peu visible.
Vladimir Mitz, vous dites qu'en France, la chirurgie esthétique sont les spécialistes du naturel. Néanmoins, tous les gens que j'ai pu voir autour de moi qui sont passés par les mains de la chirurgie esthétique ont aujourd'hui à peu près le même visage. Quand vous regardez la cérémonie, alors on va dire des Oscars, parce que soyons délicats, on a l'impression d'une assemblée d'accidentés de la route à qui on a refait le visage en catastrophe. La cérémonie des Oscars, on en n'est pas encore là, heureusement. Mais enfin, reconnaissez qu'ils ont un peu tous le même visage, vos opérés. Je parle du visage.
Eh bien non. Non. Je m'inscris en faux contre ce que vous dites. Vous avez vu ceux qu'on peut remarquer, c'est-à-dire qu'ils ont été mal
opérés.
C'est
toujours le même problème, en
fait. Voilà, c'est ça. Mais pour nous, en tout cas, l'immense majorité des patients, personne ne voit, même pas leur famille ne se rend compte. Par exemple, je vous donnais un exemple très précis. Voilà une jeune fille qui vient avec un grand nez et un tout petit menton. Elle n'est pas moche, mais bon, elle n'aime pas ce profil. Pour des tas de raisons. On l'opère et par exemple la bosse du nez, on va la mettre par l'intérieur de la lèvre au niveau du menton. On va faire ce qu'on appelle une profiloplastie. On va lui conseiller de changer de coiffure. Eh bien, même les parents et les grands-parents ne se sont pas rendus compte qu'elle avait été opérée. On dit, tiens, t'es jolie aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, il y a un art de la chirurgie, comme il y a un art de la chanson, comme il y a un art du journalisme, qui doit être capable d'aller au fond des choses, mais de ne pas bouleverser, de ne pas changer, de ne pas marquer.
Arthur H.
Alors moi, je me suis fait décoller les oreilles, parce que pour être plus original. mais c'est vrai que ça pose plein de problèmes, parce que c'est vrai que la chirurgie réparatrice, c'est absolument magnifique, surtout pour les gens qui ont des accidents, tout ça. Après, les choses qui se voient pas, moi aussi, j'ai une amie qui s'est refaire le nez, je l'aurais pas vu, mais c'était plus harmonieux. Et effectivement, elle, pour une raison inconnue qui nous échappe, elle ne supportait pas son nez.
Et dans ces cas-là, c'est insupportable, on le sait tous.
Voilà. Nez est parfaitement harmonieux, et elle est très heureuse et tout ça. Donc ça, c'est très bien. Effectivement, on peut pas s'opposer à ça. Mais je suis d'accord avec Frédéric dans le sens de ce qui est un peu potentiellement effrayant, c'est l'uniformisation aussi, le social, d'avoir tous le même visage, les mêmes apparences, les mêmes fesses, les mêmes seins, les trucs. Comme des pays comme le Venezuela ou l'Amérique du Sud, où la chirurgie esthétique n'a pas de limites et n'a pas de bornes, comme on peut en avoir en France.
Mais Arthur, nous sommes comme vous. C'est-à-dire que nous devons être un peu artistes. Qu'est-ce que nous devons faire doit toujours être un peu différent. On ne fait jamais deux fois la même chanson. Nous ne faisons jamais deux fois le même nez, jamais deux fois les mêmes
peut-être
oreilles.
Peut-être que vous avez une éthique, mais je pense que tous les chirurgiens esthétiques n'ont pas d'éthique.
Je pense
non plus.
Vous leur consacrez un chapitre, d'ailleurs, dans votre livre, docteur, les lèvres hyper pulpeuses que toutes les actrices veulent s'offrir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors ça a été une mode, les French lips, pendant les années entre 80 et 90. On a découvert qu'on avait des substances injectables dans les lèvres, notamment la silicone, qui est une huile catastrophique, et d'autres. Et donc, la mode a été d'injecter ces lèvres parce que cela symbolisait chez la femme l'idée qu'elle était voluptueuse et hypersensuelle. Ça a été une erreur mais monumentale et on connaît des actrices et des gens qui ont été déformés par cet excès. Et actuellement, donc, nous ne faisons plus du tout ce type d'intervention à ce point-là. On ne corrige les lèvres que d'une façon extrêmement discrète, un peu comme si on faisait une aquarelle très délicate.
Et les augmentations de pommettes, ça aussi, ça a été la mode.
Eh bien écoutez, les augmentations de pommettes, c'est toujours à la mode, justement en utilisant la graisse. Je vais vous raconter encore une anecdote, si vous me le permettez. J'étais à l'hôpital et il y avait la télévision qui était là parce qu'ils voulaient trouver une candidate pour l'interviewer. Et donc je voyais une patiente et j'ai vu arriver une très jolie patiente et je me suis dit, mais elle est pour l'interview. Je me suis tourné vers le caméraman et il m'a dit, non. J'ai vu deux ou trois patientes. Une autre est arrivée, que je trouvais particulièrement banale, et il m'a tapé sur l'épaule, mais c'est elle. Alors, quand j'ai fait la consultation, et on lui a demandé d'attendre, je me suis tourné vers lui, mais pourquoi? Il m'a dit, venez voir. Donc je suis allé vers la caméra, et j'ai vu, elle prenait magnifiquement la lumière au niveau des pommettes. Et si vous voulez, ce qui est beau dans les pommettes, c'est cette illumination du visage, qui est très peu connue, imperceptible, mais que nous devons pouvoir restaurer, mais pour ça, il faut vraiment le faire avec une très grande parcimonie.
Et les augmentations mammaires?
Alors l'augmentation mammaire, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'une femme se fait faire une augmentation mammaire? Surtout pas pour son mari. Si une femme arrive avec son mari où elle nous dit « c'est mon mari qui le veut », bien sûr qu'il ne faut pas le faire, nous devons dire non. Mais sur l'étude que j'avais faite sur une centaine de patientes, pourquoi vous êtes-vous fait opérer et qu'est-ce que vous avez retrouvé après cette augmentation mammaire, l'item numéro un qui est revenu, j'ai gagné en assurance. C'est que finalement, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle actuellement, le fait d'avoir une poitrine leur permet de mieux s'habiller, leur permet de capter des regards autour d'elles, ça leur redonne une force intérieure et c'est au fond leur ego qui est renforcé. C'est quand même bizarre de renforcer un ego par de la poitrine, mais la réalité montre que c'est vrai.
On continuera de parler de votre livre « Chirurgie esthétique pour ou contre » Dr Vladimir Mitz en fin d'émission. Je rappelle qu'il est paru chez Flammarion.
Europe 1 Social Club.
Ce soir, nous sommes avec le docteur Vladimir Mitz, qui est chirurgien esthétique, avec Denis Robert, qui va nous raconter tout à l'heure comment il a vécu l'affaire Grégory. Il était correspondant de Libération à l'époque sur la Vologne. Et avec Arthur H, qui sort Amour Chien Fou, un double CD. On dit que c'est votre 10e album studio. Pourquoi on ne compte jamais L'Or Noir et L'Or des Roses, que vous étiez venu d'ailleurs
j'en ai fait...
nous faire écouter ici même, et j'aime beaucoup.
Parce que le 10e album album, ça sonne bien, quoi. Ça fait, c'est carré,
c'est ça,
quoi. c'est vrai que j'en ai fait plein d'autres.
Mais vous avez fait plein d'autres. Bon, il y a les albums en concert, mais enfin, l'Or Noir et l'Or des Roses, je vois pas pourquoi on vous le coûterait pas. Hein, c'est pas parce que c'est érotique qu'il faut pas le compter. Amour chien fou, comme vous l'avez dit, ça parle d'amour. Il y a toujours des choses à dire sur l'amour, à votre âge, Arthur H. Encore des découvertes dans un vagin, comme disait Louis-Ferdinand Céline.
Oui, certainement, ouais, parce que l'amour, effectivement, a de multiples visages et que c'est une force qui est toujours en train de se transformer, qui d'ailleurs ne prend jamais le même visage, sans opération esthétique. Mais d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les défauts des gens. Je trouve que la beauté, c'est plus le caractère et l'émanation, le rayonnement de quelqu'un.
Que dit aussi Dr. Mintz dans son livre,
mais
on en parlera.
Finalement, quand on aime quelqu'un, on s'aperçoit qu'on aime aussi ses défauts physiques. La perfection ne m'attire pas vraiment. Je suis plus attiré par des défauts. Voilà.
D'ailleurs,
la
première chanson d'Amour Chien Fou, c'est La Boxeuse Amoureuse, une chanson que vous dédiez à votre mère sur scène. Et c'est pas pour montrer que ses qualités, d'ailleurs, dans cette chanson.
Oui, la boxeuse prend des coups, effectivement.
On en écoute un extrait.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. De sang et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse.
Arthur H, votre mère était boxeuse ou c'est parce qu'elle prenait des coups?
Boxeuse professionnelle.
C'est parce qu'elle prenait des coups.
Non, c'est une très belle femme des années 60, où justement, comme je disais tout à l'heure, voilà, ils ont essayé plein de choses dans les rapports masculins-féminins, avec des choses absolument magnifiques, de réinventer les relations d'amour, et puis effectivement des échecs aussi un peu tragiques, et des choses très très belles, et puis voilà, je l'ai vu tomber, je l'ai vu se relever, et puis maintenant ce que je trouve très très beau chez ma mère, c'est qu'elle retrouve une forme d'innocence, de naïveté, comme ça, comme si elle n'était pas, comme si toutes ces histoires d'amour dingue n'avaient finalement pas du tout abîmé en fait, et qu'elle retrouvait son âme de jeune fille, voilà.
Vous trouvez qu'on invente encore, on essaye d'inventer toujours dans le domaine de l'amour aujourd'hui?
Bah, je dirais plus que jamais, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que, avant il y avait plus ou moins des repères assez fixes, ces repères ont complètement explosé, donc ça laisse évidemment place à une forme de liberté, mais aussi à une forme d'errance, qu'on ne sait plus qui on est, comment on s'appelle, et tout ça. Mais en même temps, ça reste toujours assez passionnant. C'est justement cette recherche de quelque chose qu'on ignore et qu'on ne connaît pas. Ouais.
Le Mexique, Bali, le Japon ont inspiré en partie ce disque. Pourtant, j'ai lu une interview de vous. Vous disiez que vous vouliez réhabiliter un imaginaire français.
Oui, alors c'est...
Mais c'est au Japon.
Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, quand j'étais petit et que je suis allé à Boston faire des études de musique, c'est à Boston que j'ai découvert la culture française à travers la littérature, les films, tout ça. En étant très loin de ma culture, c'est là que j'ai compris ce que j'aimais dans ma culture.
Alors que quand on est ici, si l'on vous lit toujours dans le même interview, ouais, on est complètement colonisé par les Américains.
Bah, oui, c'est dans cette uniformisation de l'imaginaire que je trouve un peu triste, parce que nous aussi on a des mythes, on a des héros, des légendes contemporains, hein. Je parle pas de la Belle au bois dormant ou des choses comme ça à explorer, mais c'est comme si on se détournait complètement de notre imaginaire, fasciné par la puissance de l'imaginaire américain, que par ailleurs j'adore, je suis pas du tout contre, mais je suis contre qu'il y ait qu'une seule forme, je suis contre l'uniformisation.
On va vous écouter tout de suite dans un autre extrait de cet album. Il y a une différence entre le CD 1 et le CD 2, entre Amour et Chien Fou ?
Oui, c'est deux disques très différents. Il y en a un qui est lent, parce que je trouve qu'un disque, ça peut être aussi très agréable à écouter à la maison et pas être surpris tout d'un coup par un morceau rapide. C'est pour ça que j'ai séparé.
Autrefois, on disait d'un côté, il y a les slow et de l'autre côté, il y a les rock.
Voilà, c'est ça. Je suis revenu au bon vieux slow. Donc, tu as un disque de slow où tu peux vraiment te laisser aller. Ça finit par deux grands morceaux cosmiques très ouverts. Et puis, un disque plus énergique.
On va écouter un extrait du
Carnaval chaotique et tout ça.
Voilà, plus chaotique. Voilà. C'est Nosferatu.
Ah oui.
C'est plus dansant. Hein,
oui, voilà, c'est une blague.
Affamé de toi, j'absorbe ton être et me délecte de ta chair offerte. Donne-moi toute ta substance, deviens peau remplie de vide, traversée par le néant. Je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi, nuit infinie, vampire du vent. Je suis le crime, instant sublime, festin gourmand. Nosferatu, ami mortel.
Turache, on peut danser sur les vampires aussi.
Bah apparemment, ouais, ouais.
Ça vient d'où cette fascination qu'on a aujourd'hui pour les vampires ? Je crois qu'on n'a jamais été fasciné à ce point par les vampires qu'aujourd'hui.
Alors là, en l'occurrence, c'est ma copine qui a écrit ce texte qui m'a beaucoup plu. Mais je pense que dans tous ces visages de l'amour, l'aspect vampirique est un visage très important. Parce qu'il y a, dès que l'amour est un peu déséquilibré, c'est évident qu'il y a un qui pompe l'énergie de l'autre. Donc ça correspond, je pense, à quelque chose de très précis et de très répandu dans toute relation amoureuse, quoi.
En revanche, vous n'avez rien fait, ou alors ça m'a échappé, sur le cannibalisme, qui est une autre tendance très à l'œuvre en ce moment.
Ah bon?
Et là aussi associé à l'amour.
Oui, disons que dans Nosferatu, il y a un côté assez poétique, expressionniste, alors que dans le cannibalisme, de dévorer l'autre, mais c'est une réalité aussi. C'est vrai que des fois, on a un plaisir énorme à dévorer l'autre ou à se laisser dévorer.
Vous avez enregistré votre album à la Maison de la Poésie à Paris, pourquoi ?
Parce que je suis en résidence là-bas et c'est un lieu que je trouve très dynamique, où il y a des écrivains du monde entier qui passent, très vivants, et puis quand la première fois que je suis allé, je me dis ça serait merveilleux de faire un disque là-dedans. Donc on a le directeur Olivier Chaudançon, qui est un homme vraiment délicieux, m'a ouvert les portes.
Comme quoi, bon à savoir, il suffit de demander.
Voilà, il suffit de demander, ouais.
Mais après ce qu'on m'a dit, vous êtes retrouvé à jouer sur scène devant une salle vide.
Oui, qui était très plaisant, parce que j'ai toujours rêvé de faire un disque dans un théâtre. C'est vrai que je suis très habitué à être sur une scène. Pour moi, c'est étrange, mais en même temps, c'est très familier. Et du coup, là, donc, j'étais sur une scène devant un public de fantômes, d'esprits, où parfois, je chantais, je me disais, voilà, c'est rempli des gens que j'aime, je chante pour eux. Et ça m'a aidé, en fait.
Vous avez été remercié par Polydor, votre label. En quoi ça vous a aidé à faire cet album?
Oui, c'était un licenciement un peu dû à l'usure du temps. Juste un coup de fil, comme ça. C'est... En même temps, j'avoue que j'avais très envie de partir. C'est comme c'est une femme qui arrive, qui dit qu'on veut quitter depuis 3 ans. Elle dit, je te quitte. Je dis, oh, t'es sûr, maman, tu veux vraiment me quitter? Bon, ok, d'accord. Donc c'était un peu ça, quand même.
Donc ça se passe bien, vous êtes heureux?
Oui, je suis heureux.
Vous serez demain à Charleville-Mézières, le 10 ouais. À Jouy-le-Boutier, le 15 à Massy. Vous serez à Paris et au Trianon le 4 avril, à la salle Pleyel. Vous revenez à Paris le 9 octobre.
9 octobre ouais.
Je vous souhaite une très très bonne tournée.
Merci.
On va écouter un autre extrait de d'Amour Chien Fou, c'est Assassine de la Nuit. Mais celle-ci, on va l'écouter en entier. Un mot avant qu'on l'écoute?
Bah, c'est également une chanson d'amour étrange.
Assassine de la nuit, une chanson tirée du double CD d'Arthur H, Amour Chien Fou. En l'écoutant, je vous imaginais tout seul à la Maison de la Poésie, l'interprétant devant une salle vide.
Frédéric Taddeï vous accueille à l'Europe 1 Social Club.
Denis Robert, avant de vous spécialiser dans les affaires politico-financières, vous étiez journaliste à Libération et vous avez couvert l'affaire Grégory. Vous publiez « J'ai tué le fils du chef », le roman de la Vologne, 1984-2018. On vous avait souvent demandé d'écrire sur cette histoire, des livres ou des films. Vous avez toujours refusé. Hein. Vous avez préféré la restituer comme vous l'aviez vécu, à travers vos articles. Vous n'avez rien modifié?
J'ai enlevé les titres et les sous-titres, et j'ai enlevé quelques articles. Je me suis rendu compte que ce qui faisait la force du livre, c'était justement de rien, de pas y toucher, de garder la nervosité, l'électricité qu'il y avait dans l'air et de pas réécrire. J'aurais pu j'aurais pu essayer la fiction, essayer de réinventer l'histoire. Je pense que c'était moins bon, quoi. Il fallait que ça soit dans son jus.
Il y a pas eu des moments où vous avez eu un peu honte de ce que vous écriviez à l'époque, parce que Dieu sait si les journalistes.
Il y a eu un moment où je me suis pas senti très bien, alors que j'avais pas une responsabilité directe et importante, mais j'en avais une toute petite. C'est au moment de la mort de Bernard Laroche, quoi, où j'ai eu l'impression qu'on avait tous armé le père de l'enfant.
Il faut rappeler que c'est le suspect numéro un, enfin pas tout à fait numéro un, il y en a eu avant, mais c'est le premier, Bernard Laroche, où on se dit c'est lui le coupable, et puis finalement le juge Lambert le relâche, et beaucoup de monde dit mais si, c'est lui le coupable, et c'est ce qui va faire que Jean-Marie Villemain va le tuer.
Voilà, mais aujourd'hui on a la certitude absolue qu'il a kidnappé l'enfant, qu'il était dans la voiture.
Vous avez la certitude absolue.
Non, le dossier, il y a des éléments de preuve, il y a des témoignages très précis.
Vous recommencez comme à l'époque.
Je vous réponds. Je le dis avec sans passion particulière. Enfin, je veux dire, c'est parce que j'ai le fait d'avoir réécrit, parce que le livre, c'est ces articles, dont un grand papier de Rolling Stone qui analyse le phénomène médiatique, mais c'est surtout la fin, pour écrire les 80 pages de la fin qui sont l'actualité, on va dire, du dossier depuis le suicide de Lambert, le juge d'instruction. Je me suis remis dans le dossier, donc j'ai fait un gros travail de lecture, de je suis retourné sur place, enfin, etc., quoi. Et je me suis rendu compte que je m'étais... c'est marrant parce que pendant... ma vie est quand même tumultueuse et compliquée. J'ai fait beaucoup de choses pendant... En 84, quand j'arrive à L'Épanche-sur-Vologne, j'ai pas fait d'école de journaliste. Je sors d'une fac de psycho. J'ai un DEA de psycholinguistique. Et donc, j'ai pas du tout les tics des journalistes. C'est sans doute pour ça que j'écris d'une manière non dictée par des pairs ou par une institution. Et donc, je fais toujours un pas de côté. Et très tôt, je crois que je cherche pas le coupable, mais je cherche à raconter une histoire. J'ai devant moi un phénomène hallucinant, quoi. C'est-à-dire le mélange des genres, le juge hésitant, les gendarmes qui tiennent des propos. Vous vous souvenez du capitaine Sesmat qui dit un loup est en train d'hurler dans la jungle. Enfin, ils ont des métaphores comme ça. Aujourd'hui, enfin, il y a tout un feu qui est allumé et qui va déclencher un incendie, quoi, qui brûle 33 ans après encore, quoi. Et donc, je suis le témoin de ça.
Vous dites avec cette affaire, le pays est devenu fou. Le pays ou tous ceux qui étaient là-bas?
Il y a eu une électricité particulière là-bas entre tous les protagonistes de cette histoire.
Qui se détestent un peu tous en plus. Hein.
Bon, d'une part, il y a le climat familial. On a parlé de clans, etc. C'est pas vraiment des clans, c'est des familles. Il y a des haines qui macèrent. Il y a des secrets dans les placards, des incestes, de l'alcool, du sexe, on sait aujourd'hui maintenant qu'il y a des couples échangistes. Enfin, il y a toutes ces histoires de haine très très humaines, mais dans leur bestialité, quoi. Enfin, mais sans doute dans d'autres milieux, dans d'autres lieux, ça a pu exister de la même façon. Sauf qu'à un moment, un enfant de 4 ans qui est plein de vie et d'innocence, etc., se retrouve instrumentalisé, assassiné par quelqu'un.
On le jette vivant.
On le sait aujourd'hui. L'enfant était vivant quand il a été jeté dans l'eau, puisqu'on n'a pas retrouvé d'algues de la Vologne. Et surtout, le crime a été revendiqué avant d'être commis, ce qui est quand même la manière dont le corbeau, ou en tout cas l'instigateur de ce crime, ou les instigateurs, ont influencé tout ça et ont mécanisé ces quelques heures, puisque c'est entre 17h30 et 21h30 ce jour-là, et renferme quelque chose aujourd'hui encore d'incompréhensible. C'est comme le mystère des pyramides, c'est comme des choses... Parce que dès qu'on essaie de mettre en place un scénario, on se dit mais c'est pas possible parce qu'il y a ci, il y a ça, etc. Les seules certitudes qu'on ait, c'est que l'enfant était devant son tas de sable entre 17h02 et 17h10. Enfin, je vais pas vous emmerder avec les horaires. Et on sait que Muriel Boll et Bernard Laroche étaient dans la voiture, que l'enfant a été pris là, et ensuite ça part dans les chemins. Après, il y a des hypothèses, des choses comme ça, et on récupère le corps de l'enfant à 21h30, et le corps est encore chaud, il vient d'être mis à l'eau. Enfin, et après démarre une enquête qui est absolument hallucinante et qui est attisée par un corbeau qui semble-t-il, a tout calculé et nargue non seulement la famille, nargue les enquêteurs et nargue aussi et surtout les journalistes qui sont comme des fous, quoi. Alors effectivement, ça crée un climat
Mais
très très particulier.
Denis Robert, vous étiez à l'enterrement du petit Grégory, comme tous les journalistes à l'époque. Le ou les assassins étaient probablement là, eux aussi. Il y a de fortes probabilités. D'après ce que les scénarios qui circulent aujourd'hui et les gens qui ont été mis en examen, ils étaient tous là. Qu'est-ce qui a dérapé? Qu'est-ce qui a fait que ce qui devrait normalement être conclu en quelques jours, voire en quelques semaines, dans un petit village, une famille, on devrait assez vite arriver au coupable. Là, non. Et presque 30, plus de 30 ans après.
Des dérapages, il y en a eu énormément. Mais si je ne dois en choisir qu'un, c'est au niveau des témoignages. C'est-à-dire que la maison de Christine et Jean-Marie Villemain se trouve en haut d'un plateau. Autour de ce plateau, il y a 6 témoins qui, entre 17h et 17h15, marchent, se promènent, vont chercher leurs vaches, etc. Il se trouve que dans ces témoins, il y a un couple de fermiers, qui c'est monsieur et madame Claudon, et que cette madame Claudon a un ami, un amant, enfin on ne sait pas vraiment, qui vient la prendre en voiture et qui l'emmène chercher ses vaches. Donc, et ces témoins sont interrogés tous, il y a le voisin, monsieur Méline, etc. Et chacun donne un témoignage. Madame Claudon assure avec force qu'elle n'a jamais vu de voiture verte. Et si vous voulez, c'est comme d'autres témoignages disent qu'il y a cette voiture. Elle dit qu'il n'y a pas de voiture. Son mari dit qu'il n'y a pas de voiture. Et un couple de voisins, les Méline, qui sont des voisins et des amis, disent qu'il n'y a pas de voiture. Donc le juge Lambert, ensuite, va fonder toute son accusation de Christine Villemain et va dire que Laroche va fabriquer son innocence sur le fait qu'il y ait ce témoignage-là.
Parce que la voiture verte, c'est celle de Bernard Laroche.
C'est celle de Bernard Laroche et qui est vue par d'autres témoins. Or, on sait aujourd'hui, par les aveux de cette madame Claudon, et cette madame Claudon, pourquoi elle avoue? Alors c'est là où l'histoire, mais je vous le raconte parce que c'est quand même c'est quand même extraordinaire. C'est qu'une dame, une dame d'Alsace qui s'appelle Madame Conro, se passionne pour ce fait divers et elle achète la maison des Villemain. Elle l'achète parce que l'endroit est joli, etc. Mais c'est aussi parce qu'elle a envie d'enquêter, c'est qu'elle a envie de savoir, etc. Et elle fait des apéros chez elle, elle invite les voisins, les voisines, etc. Et elle fait parler cette madame Claudon qui lui dit un jour après quelques verres de je sais pas quoi, elle lui dit oui, bah j'ai vu la bagnole mais j'ai pas pu le dire parce que un monsieur qui s'appelle monsieur Colin était dans la voiture et comme c'était une voiture de service, comme c'était sans doute son amant et qui peut-être ils étaient dans les champs pour faire autre chose que garder les vaches, il y a un secret qui a été gardé comme ça dans la famille et les voisins qui avaient vu la voiture aussi ont dit qu'ils l'avaient pas vue parce que après quand il y a eu la déferlante des journalistes, tout le monde avait peur de parler. Et cette madame Conro, par son témoignage qui ensuite a été recoupé par d'autres témoignages, a fait parler les 5 personnes qui ont tous avoué, y compris le fils de ces paysans, qu'effectivement ils avaient vu la voiture, qu'effectivement ils se sont tus et ils ont expliqué les raisons. On comprend ces raisons, mais si vous voulez, ils se sont enfoncés dans un mensonge. Pour répondre à vos questions, donc si quelques jours après le crime, cette femme avait dit j'ai vu la voiture, il n'y aurait pas eu d'affaire, il n'y aurait pas eu de problème, etc. Et on aurait
seulement
forcément...
si elle a vraiment vu la voiture.
Mais elle a vraiment eu, puisqu'ils sont assis, après il faut rentrer dans le dossier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute là-dessus.
Oui, d'après, pour vous.
Non, pas que pour moi, pour...
Mais je veux bien... En tout cas, vous terminez ce livre, Denis Robert, à une projection d'un film de Raoul Peck, un téléfilm sur l'affaire Grégory, projection à laquelle vous assistez. Vous êtes assis entre Christine et Jean-Marie Villemain, dites-vous. Et vous dites, c'est qu'en voyant ce film, très bon, d'après ce que vous dites, une excellente reconstitution, que vous avez réalisé tout à coup ce que vous leur aviez fait à ces deux personnes, vous et tous les journalistes. Ce que vous appelez, ce qu'on appelait les rats de la Vologne.
C'est-à-dire que quand j'avais 25 ans en 1984, le même âge que Jean-Marie Villemain, j'avais pas d'enfant. Depuis, j'ai eu des enfants et je pouvais pas à l'époque comprendre ce que c'était que l'assassinat de son propre enfant. Donc j'avais de la compassion, je voyais très bien la souffrance de ce couple, mais je le sentais pas à l'intérieur de moi, quoi. Donc en vieillissant, j'ai compris un certain nombre de choses et j'avais plutôt de l'empathie, effectivement, pour Christine et Jean-Marie. j'étais assez tôt persuadé, même si par moments j'ai douté, comme tout le monde, il y avait tellement d'erreurs, d'énormités écrites sur ce sujet que Christine Villemin, voilà, il y avait quand même, faut se souvenir des milliers de papiers, des horreurs écrites sur elle. Donc il y a eu un moment de flottement, mais donc j'étais proche de ce couple. Et quand je sais plus en quelle année était le téléfilm, je rentrais de voyage.
2007.
Je suis invité à la projection et je suis très content de les revoir. Je les avais pas vus depuis très longtemps et je vois leurs enfants et tout. C'était très très émouvant et le hasard du cinéma fait que je me retrouve assis entre elle et lui. Et il découvre le film. Et le film, c'est un moment, je ne sais pas si on peut imaginer ça, parce que d'abord, il faut imaginer leur douleur, tout ce par quoi ils sont passés. Et le téléfilm était un film en 6 parties. Et chaque début de film est une reconstitution avec les personnages à l'identique, dont l'enfant. Donc le personnage joué par l'enfant avait les traits de Grégory. Et donc Christine et Jean-Marie, qui étaient l'un et l'autre à côté de moi, revivent sur l'écran le drame inouï de cette histoire. Et moi qui débarquais, je sais plus, je redébarquais des États-Unis, je crois, j'étais complètement, et je me retrouve autour d'eux, je peux vous dire que, en termes de charge émotive, en termes de violence inouïe, en termes de moments très, très denses, c'est un des trucs les plus énormes que j'ai vécu. Et voilà, et j'ai senti, d'une manière, d'une proximité forte, leur douleur, quoi. Et voilà, et donc c'est sans doute, peu de gens peuvent comprendre aussi la solitude de ces gens-là. Ils ont reconstruit leur vie, ils ont reconstruit une famille, mais on est peu nombreux à pouvoir imaginer ce qu'ils ont vécu, puisqu'on l'a, d'une manière un peu extérieure, mais on a vécu aussi en partie ce qu'ils ont vécu, quoi. Donc c'est une histoire tragique, mais je pense qu'elle peut aboutir aujourd'hui à une solution.
J'ai tué le fils du chef, affaire Grégory, le roman de la Vologne, 1984-2018. C'est signé Denis Robert et c'est paru chez Hugo Doc. Et c'est l'heure de sortir, comme chaque soir, un disque de ma discothèque. Ce soir, c'est Blue Velvet, interprété par celui qui l'a créé.
She wore blue velvet, whoa, whoa. Bluer than velvet was the night, whoa, whoa, whoa. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly, but when she left, gone was the and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Blue velvet. Ooh.
Velvet, interprété par Bobby Vinton. C'était en 1963.
Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce soir avec Denis Robert, avec Arthur H et avec le docteur Vladimir Mitz qui publie « Chirurgie esthétique pour ou contre » chez Flammarion. Vous avez eu envie d'ouvrir ce procès, docteur, puisque vous le disiez, vous souffrez de la mauvaise presse qu'a votre profession, une profession que vous pratiquez depuis plus de 40 ans, vous avez contribué à démocratiser et qui en plus a fait énormément de progrès. Néanmoins, parfois on a l'impression que l'idée de la chirurgie esthétique, c'est de gommer toute sophistication naturelle, toute personnalité. Ça n'est pas le cas en réalité.
Oh non, pas du tout. J'ai beaucoup apprécié ce que disait Arthur H. C'est que pour nous, il n'y a pas de norme de beauté. Ce qui est énorme, c'est l'impact que l'autre a sur nous au travers de sa présence, son regard, son charisme. Et c'est évident que la chirurgie ne fait rien là-dessus. La chirurgie, elle ne peut qu'aider les gens à enlever un complexe qu'ils ont en profondeur. Et il y a des gens qui ont des complexes qui les minent. Et c'est ça qui est important. Je parle beaucoup dans le livre des adolescents et je raconte aussi les anciens mythes qui sont un peu fondateurs de notre profession.
Prométhée.
Prométhée, Martias, dont on a arraché la peau, et le golem, qui est cet être qui a été construit à partir de la glaise et qu'on ne savait plus comment arrêter et qui est un peu la préfiguration d'une intelligence artificielle. On n'imagine pas un robot faire de la chirurgie esthétique et rendre tout le monde pareil. Donc pour répondre à votre question, non, la chirurgie esthétique, elle est à faire exceptionnellement à des gens très motivés qui ont un vrai complexe. Et ces vrais complexes, ils viennent aussi d'un problème particulier, c'est que la nature est injuste. Vous, vous êtes beau, vous avez beaucoup de charme, vous avez un charisme manifeste. Et puis il y a des êtres qui, malheureusement, voient en eux une fissure, une faille. On appelle ça une faille narcissique. Et cette faille narcissique peut correspondre à une possibilité d'amélioration par notre action. Et notre action, elle est à ce moment-là thérapeutique. Nous sommes des médecins. Nous n'avons rien à vendre, mais nous pouvons réparer. En cela, la chirurgie esthétique se rapproche de la chirurgie réparatrice. C'est son prolongement, si vous voulez. C'est un prolongement qui est très délicat, parce qu'on doit tenir compte d'un esprit, l'esprit de l'autre. Et c'est parfois très compliqué. Et il y a un secret. Et pour nous, le secret que nous avons découvert, c'est qu'il faut écouter l'autre. J'aime beaucoup écouter vos chansons. C'est une façon d'entendre la musique. Et puis il y a la musique des gens qui souffrent en face de nous.
Oui, mais
et
il faut savoir l'entendre. La musique de tous ceux qui veulent absolument se rajeunir, embellir. Il y a cette phrase de Martin Scorsese, le réalisateur, qui dit qu'à Hollywood, il n'y a plus moyen de trouver un acteur avec une ride, une fossette ou une cicatrice. Ça a complètement disparu.
Oui, bien sûr, parce que on sait aussi que les progrès techniques rendent des miracles possibles. Avoir la figure d'un autre, c'est un miracle de la chirurgie réparatrice, mais qui est devenue possible. Donc les gens n'ignorent pas qu'il y a des progrès techniques fantastiques. Et puis à côté de ça, il y a aussi, je vous le disais au début, la médecine esthétique qui vient donner par des solutions simples, peu invasives, une possibilité d'améliorer l'ordinaire. Donc c'est vrai qu'il y a une tentation énorme en chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui limite cette tentation? Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas aller peut-être jusqu'au bout? Eh bien, c'est justement le chirurgien qui va vous dire non, vous êtes belle. Je vais raconter une anecdote qui va vous rappeler quelqu'un. J'ai vu arriver une fois en consultation une femme qui venait d'avoir une grosse déception sentimentale. Elle avait la quarantaine, elle avait les traits tirés, elle avait des poches sous les yeux, elle avait quelques sillons nasogéniens marqués, elle avait des parenthèses sous les tours de la bouche, un côté un petit peu triste. Et moi, objectivement, j'ai trouvé super belle. Et donc, je lui dis, mais vous êtes très très belle, ne faites rien, soyez heureuse, redémarrez. Et cette femme est revenue me voir quelques mois après, très heureuse. Elle m'a dit, vous savez, docteur, m'avait fait un bien fou. Parce que si vous, professionnel, m'avez dit que j'étais belle, j'ai eu confiance dans votre parole. Et c'est vrai, des fois, une parole est mieux que le bistouri.
Oui, vraiment. Il y a quand même, on l'a dit, la chirurgie réparatrice a fait beaucoup de progrès. Il y a des cas de réussite. La chirurgie bariatrique qui agit sur le tube digestif pour perdre du poids, ça marche?
Alors, ça marche. Et ce sont beaucoup de problèmes en post-opératoire chez certains patients parce que perdre entre 50 et 100 kilos n'est pas sans parfois provoquer des désillusions, trop de peau qui pendouille et qu'il faudra rattraper par de la chirurgie comme un couturier haute couture.
Merci docteur, chirurgie esthétique pour ou contre, c'est signé Vladimir Mitz, ça vient de paraître chez Flammarion. J'ai tué le fils du chef, le livre de Denis Robert sur l'affaire Grégory, c'est chez Hugo Doc. Arthur H, son nouveau double CD Amour Chien Fou, c'est sorti pas chez Polydor et c'est bien fait. Et vous serez en tournée en France, je l'ai dit, toutes les dates sont à consulter sur votre site. Bonsoir Émilie Mézoyer.
Bonsoir.
Qu'y a-t-il au programme de Shuffle ce soir? Il n'y a pas Arthur H déjà.
Non, il n'y a pas de chien fou. Non, moi ça va être des chevaux au galop ce soir. Plein de chansons autour des chevaux. Il y aura America notamment, Horse With No Name. Et puis Juliette Gréco aussi, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a 91 ans. Donc voilà, on va écouter Gréco.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.